RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, en plein cœur du tournoi Destination, à quelques mois seulement de la Coupe du Monde qui se déroulera sur notre territoire à l'automne, les poteaux s'attellent aujourd'hui à un dossier délicat, celui de l'arbitrage. Car depuis quelques semaines, certaines polémiques en tout genre ont vu le jour, que ce soit en matière de carton rouge adressé à certains, pas à d'autres, mais aussi en ce qui concerne l'arbitrage vidéo et ses ralentis dont M. Barnes a été privé lors du dernier France-Irlande. Cela, sans compter l'arbitrage de certaines phases de jeu, notamment dans les rugs, de nouvelles consignes auraient été adressées aux arbitres alors que nous ne sommes qu'à quelques mois de la Coupe du Monde et que cela perturbe certaines équipes, dont l'équipe de France. Alors tout cela est-il du domaine du fantasme ou la stricte réalité? Pour le savoir, nous accueillerons dans un instant celui qui, après avoir dirigé les plus grands matchs de la planète puis conseillé à l'équipe de France en matière d'arbitrage, est aujourd'hui le patron des arbitres au sein de World Rugby, une sorte de grand Manitou du sifflet, Joël Judge, dont la parole est rare et par conséquent précieuse, sera avec nous entre les poteaux dans quelques instants et nous l'en remercions vivement. Pour l'interroger, j'espère que les poteaux ont ouvert et potassé l'imposant guide des lois du jeu, ses 21 règles et ses multiples interprétations. On a besoin d'experts aujourd'hui. Et quand je parle d'experts, je pense évidemment à Denis Charvet.
Oui,
tu as déjà ouvert la Bible des règles, Denis?
Jamais.
Jamais. T'en connais combien sur les 21?
J'en connais une. C'est, tu sais, les passes en arrière.
Ça, oui, c'est
pas
bien.
De passes en avant, il paraît que c'est le dernier.
C'est bien, c'est déjà pas mal, c'est un début. En ce qui concerne Manu Massicard, je n'ai évidemment aucun doute, le patron de Midi Olympique a le livre sur sa table de chevet, n'est-ce pas, mon cher Manu?
Oui, et quand j'ai perdu mes lunettes, j'appelle Joël pour qu'il traduise tout, parce que sinon je comprends rien. Voilà.
Et puis, Wilfried Templier est aussi de la partie, comme tout bon journaliste commentateur, lui aussi est obligé de se mettre à niveau au quotidien. Ça va, Wilfried?
Ouais, on a des interrogations écrites de temps en temps, surprises.
Mathieu Reynal t'avait invité la dernière fois à venir faire un après-match avec lui. T'as été le faire ou pas encore?
Non, pas eu l'occasion. Non.
Bon,
non.
Allez, on est parti. Arbitrage vidéo défaillant, carton rouge sévère, changement de règles dans le jeu au sol à quelques mois de la Coupe du Monde. L'arbitrage est sous pression.
Attention sur l'extérieur, attention à James Stone, la défense de Penaud. Est-ce qu'il y a touche?
Arbitrage, on appelle le néo-zélandais Pickerill pour l'arbitre vidéo.
Il touche.
Est-ce que ça touche la ligne?
Le bout du grand point.
Si tout le monde parle et tout le monde est en train d'expliquer les règles de mon sport, ça va vite m'agacer.
Vidéo sur Antonio. Attention, messieurs dames, attention.
À mon avis, moi je vois épaule, messieurs, je sais pas ce que vous voyez.
Carton jaune pour Antonio qui va sortir 10 minutes.
26ème minute.
Richard, avant tout le monde, tu mets pas le rouge, pourquoi tu mets le jaune? Je suis désolé. S'il n'y a pas de rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas de faute.
On dit qu'il y a un autre joueur, d'accord, que je suis sur la phase de jeu, et que s'il décide d'arbitrer, il prend un sifflet, il fait une formation d'arbitrage. C'est bien compris? Donc je ne vais plus l'entendre sur le terrain.
Mais sur un rock pour les Écossais à 5 mètres de la ligne, Mohamed Awas a été percuté, le demi de mêlée écossais Ben White. Et alors on va écouter peut-être l'arbitre.
Ouais, on écoute l'arbitre peut-être.
Tu vas percuter le 1 sans ballon, petit coquin.
Ouais, il n'y a pas de haut danger. Il touche la tête, mais c'est pas un haut danger.
Un jaune, ouais, en fait, l'arbitre central vient de dire grosso modo qu'il va donner un jaune.
Ok.
Ouais.
Carton rouge.
C'est pas ce que Richard, on avait entendu la même chose pourtant de Ben Whitehouse, l'arbitre
c'est
vidéo.
C'est très sévère pour moi.
Bon, on a un peu triché, hein. On a un peu triché. C'est pas vraiment les réactions des arbitres internationaux qu'on a entendu après les commentaires de Denis et de Wilfried. Mais voilà, ça nous a fait plaisir.
Non, mais à chaque fois qu'on avait dit annoncer quelque chose, il s'est passé l'inverse quand même.
C'est souvent le cas avec vous, les garçons. À 56 ans, il a connu plusieurs vies. Tout d'abord celle d'un demi de mêlée talentueux, brusquement contraint d'arrêter sa carrière sur blessure. Puis la vie trépidante d'un arbitre international dirigeant les plus grandes rencontres de la planète avant de devenir le patron des sifflets à la Fédération Française, à l'ECPR, puis à World Rugby, la Fédération Internationale, où il est donc le taulier des arbitres depuis 2020. Après avoir déjà occupé la fonction quelques années plus tôt, il nous fait le plaisir et l'amitié d'être avec nous entre les poteaux, Joël Judge. Bonjour Joël.
Bonjour.
Et merci d'être
avec nous. Bonjour Joël.
Je le disais, bonjour. CV bien rempli, le rugby c'est votre vie. Laquelle vous avez préférée, celle de joueur, d'arbitre ou de patron des arbitres?
Oh, celle qu'on préfère, c'est celle qui, lorsqu'on se retrouve sur le terrain, évidemment, et en tant que joueur, en premier. Et puis après, j'ai été agréablement surpris de ce que j'ai pu connaître en tant qu'arbitre. Et puis maintenant, on est obligé de s'adapter. On ne peut plus courir, on court moins, donc il faut manager.
Et en tant que joueur, on a emporté le maillot de...
Ça y est.
Du stade Cadurcien, et oui, monsieur.
Et oui, mais il est... Toi aussi, tu l'apportes chez les jeunes,
oui,
toi. T'as été formé
là-bas. Non, en première, l'équipe
En première aussi. D'accord, vous n'avez jamais joué ensemble.
On aurait pu, à 4 ans près, je crois. Ouais. Non, c'est ça, Joël.
C'est ça, Denis.
Bon, c'était un mythe à Cahors, Denis Charvet,
une mythe,
Joël, ou non déjà.
Une mythe.
Alors, je le disais, est-ce que c'est indispensable d'avoir été un joueur pour être un bon arbitre, Joël, ou est-ce qu'on peut être arbitre sans avoir porté le ballon?
Non, j'ai toujours pensé que d'avoir joué aidé, je le pense toujours, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient atteint le haut niveau sans avoir été de grands joueurs. Donc j'ai revu mon jugement, mais je pense quand même que d'avoir joué permet de comprendre les situations, la psychologie des joueurs également. On a un contact qui est aussi un peu différent.
Mais est-ce qu'on a cette vocation en soi? Est-ce que tu avais ça déjà jeune, ou quand tu jouais déjà, quand tu étais joueur, est-ce que tu étais attiré par cette discipline?
Ce n'est pas une vocation en soi du tout. Si je n'avais pas été blessé, je crois que je ne serais jamais devenu arbitre. Et puis c'est comme toujours, hein, lorsqu'on vous fait des rencontres, certaines personnes ont du crédit à vos yeux et vous suggèrent certaines choses. Il vous suffit de le digérer, d'y réfléchir. Et puis 2 ans après, j'avais décidé, suite à cette blessure, de me lancer dans ce nouveau défi. Et puis le rugby a évolué. Il y a eu des Coupes d'Europe, parce que quand j'ai commencé, il n'y a pas les Coupes d'Europe. Les Coupes d'Europe sont arrivées, les voyages à l'étranger, se remettre dans une langue également, une langue étrangère, si je trouvais ça enrichissant. Et puis il y a de vrais contacts avec les entraîneurs, avec les techniciens, avec les joueurs. Donc le haut niveau est intéressant pour ça.
Ouais. Il faut parler anglais couramment désormais pour être un arbitre international. C'est la langue du rugby, l'anglais. Ça, on ne peut pas y couper. Hein.
Oui, c'est incontournable.
Ouais. Alors, vos vies de rugbyman puis d'arbitre international ont été interrompues, je le disais, par des blessures au genou. Quand on est joueur, on peut comprendre qu'il faille être au top physiquement. Pour être arbitre aussi, est-ce qu'il faut avoir un physique à toute épreuve? Je sais que la limite d'âge est fixée aux alentours de 45 ans, en tous les cas pour le rugby français. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'arbitrage international. 45 ans, à 45 ans, on est un vieux, on ne peut plus courir au même niveau que les jeunes joueurs?
Non, au niveau international, 45 ans, il n'y a pas de date arrêtée, puisqu'il y a un côté discriminatoire hein, quand on met 45 ans. Si vous avez des gens à 45 ans qui sont capables de faire des tests physiques à un très haut niveau. Mais en tout cas, on est obligé de faire attention à cet âge-là, parce que certains après 40 ans, managent leur corps puisque le jeu ne sont plus trop dans la performance. Et là, c'est à l'encadrement à dire stop à certains arbitres, ou alors on peut continuer, mais c'est vrai qu'entre 45 ans et 50 ans, il faut arrêter les gens, ou les arrêter plus tôt s'ils sont passés performants.
Mais vous les voyez sur des tests physiques, des résultats de tests physiques, ou c'est sur des matchs, vous ressentez des choses et vous voyez des choses?
Non, vous avez bien vu que le profil des arbitres a complètement changé. On a vraiment des sportifs aujourd'hui, des gens qui sont très affûtés, qui sont suivis régulièrement, ils s'entraînent avec des GPS comme les joueurs. Hein. Donc on a quelqu'un à World Rugby qui centralise toutes les performances, et ils ont 4 tests physiques par an qui sont assez relevés, assez costauds, et ça fait partie des critères de sélection pour la Coupe du Monde 2023.
Et justement, Joël, ce qui est étonnant, c'est que l'on a vu lors du dernier France-Écosse un arbitre qui a 28 ans, un arbitre international.
Issu d'une petite nation du rugby, c'est la première fois qu'un
géorgien. Donc l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que tu peux faire confiance, vous pouvez faire confiance à des jeunes arbitres.
Mais je me suis rendu compte que les nations majeures n'étaient pas toujours capables à mesure de fournir des arbitres pour le plus haut niveau. Et donc, nous avons cherché dans les nations dites du tiers 2, voir s'il y avait des talents. Et on avait observé ce jeune arbitre qui était journaliste, ouais, qui commentait tous les matchs de rugby de l'équipe nationale de Géorgie à la télévision. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel formidable. On l'a suivi, on l'a suivi en Coupe d'Europe. Et puis aujourd'hui,
il est très bon, il est excellent.
Il se débrouille parfaitement bien. Ouais.
On reparlera de lui tout à l'heure, parce qu'il a connu quand même des moments délicats hein, lorsqu'il était arbitre en Géorgie. Il a été poignardé. On en parlera tout à l'heure. Alors, il y a une limite d'âge. Et cette limite d'âge, Joël, elle est en partie responsable du nombre réduit d'arbitres français lors de la prochaine Coupe du Monde, puisqu'on est passé de 5 en 2019 à un seul à l'automne prochain. L'arbitrage français n'est plus ce qu'il était, ou il a vieilli en tout cas?
Non, pas vraiment. L'arbitrage français a subi quelques pertes, à savoir que Jérôme Garcia s'est parti, Romain Poit a été en fin de carrière, puis Pascal Galuzère a décidé d'arrêter à 2 ans de la Coupe du Monde. Pour moi, ça a été un vrai choc. Alexandre Ruiz également a décidé d'arrêter pour entamer une brillante carrière d'entraîneur avec Montpellier. Donc, il faut renouveler les arbitres et les renouveler. Vous ne faites pas comme ça, ça prend du temps. C'est comme quand vous formez. Pardonnez-moi la comparaison, mais des infirmiers, ça prend 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et donc, vous ne pouvez pas fournir des arbitres à haut niveau.
Mais les infirmiers restent plus longtemps en place, alors que les arbitres, finalement, ils font un passage éclair, finalement, au très haut niveau.
Ils peuvent faire un passage éclair, mais certains, comme vous les connaissez bien, les Weinbrand, c'est Romain Poit également, Jérôme Garcès sont quand même eu
Roland aussi.
Plus haut niveau, 10-15 ans, 10-15 ans plus haut niveau.
Ouais. C'est vrai que vous le disiez, il y a des arbitres qui sont attirés vers les clubs, hein, changent de job.
Nouveau ça.
Oui, ça, on en a parlé déjà avec Monsieur Reynal il y a quelques temps. Est-ce que ça vous inquiète, Joël, justement le fait que ces arbitres quittent la profession pour devenir entraîneur ou plutôt pour conseiller les équipes et les joueurs? Est-ce que c'est quelque chose qui inquiète l'arbitrage mondial?
L'arbitrage mondial, pas du tout. Je crois qu'il y a une spécificité française. Après, je ne suis pas du tout étonné de voir les arbitres impliqués dans les équipes professionnelles, car on se rend compte, et vous l'avez bien annoncé dans votre bande-annonce, à savoir que les équipes aujourd'hui sont obligées de s'adapter à l'arbitrage. L'arbitrage s'adapte au jeu. Donc cette adéquation, cette harmonie est impérative. Comprendre ce qu'on fait, c'est rendre le joueur meilleur, mieux maîtriser la règle, c'est le rendre meilleur. C'est pas forcément pour être moins pénalisé, c'est pour le rendre plus pertinent dans les jeux. Jusqu'où on peut les jouer, que peut-on faire, et ça c'est vraiment intéressant. La règle évolue énormément. On a énormément d'échanges avec les entraîneurs et en 6 mois, il y a énormément de détails qui sont affinés parce qu'il y a des attentes de leur part et on est obligé donc de faire des ajustements. Et lorsque ces arbitres vont dans les clubs, c'est pour améliorer les compétences des uns et des autres. Et pour moi, c'est indispensable d'avoir des gens de l'arbitrage, de la règle, associés aux techniciens du jeu. Je pense que le cocktail, si on a des gens intelligents, peut être vraiment très intéressant.
Ouais, ouais. Manu, c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'équipe. Ils peuvent plus se passer d'avoir un arbitre dans leur staff, ou en tous les cas, d'avoir des conseils réguliers d'un arbitre de haut niveau. Hein.
Oui, c'est dire toute la complexité de notre sport et de ses règles. Joël l'a dit. Ce que je remarque, c'est certainement aussi que c'est une évolution du professionnalisme et des salaires, hein, tout simplement, puisque aujourd'hui, les staffs de rugby, des encadrements de top 14 sont aujourd'hui bien mieux payés que ne le sont les arbitres, si je ne m'abuse. Joël, tu me corrigeras. Et c'est une propriété du rugby. On ne voit pas ça dans le football. On voit très très peu d'arbitres qui se reconvertissent et qui partent, à ma connaissance, dans les squads, dans les staffs d'équipes de professionnels.
Joël ?
La règle est différente. Hein. Évidemment, la règle est très complexe en rugby. Nous le savons tous. Nous aimerions qu'elle soit beaucoup plus simple. Nous aimerions qu'elle soit plus, comme on dit, black and white. Malheureusement, il y a énormément d'interprétations, des zones grises, et justement, ces contacts réguliers que nous avons avec les entraîneurs nous permettent de démystifier, de vulgariser, de mettre les observables communs pour avoir un arbitrage cohérent, parce que nos clients que sont les clubs nous demandent de la cohérence, et c'est extrêmement difficile d'être cohérent d'une partie, et évidemment, quand on a un tournoi, d'avoir 15 arbitres hein, et d'être cohérent, c'est un vrai défi. Mais ces zones grises-là doivent être discutées, débattues, pour que justement, tous ensemble, nous arrivions. Et d'où l'importance des journalistes, des consultants qui doivent être informés pour pouvoir éduquer le grand public. Vous avez un rôle majeur, parce que parfois, pour ne pas dire souvent, on entend quand même des choses qui sont erronées.
Monsieur Charvet, justement, voilà un message.
Il ne parlait pas de moi.
Non, mais justement,
si.
On t'a invité pour ça, Joël, aujourd'hui.
Il parlait de Manu pour le milieu de la piste.
Si.
On a beaucoup de choses à voir avec Joël, justement.
Oui, bien sûr, on va parler de règles tout à l'heure.
Moi, j'ai beaucoup de choses à lui demander.
Oui, tu as un peu de retard, c'est vrai, du coup, des règles.
Non, mais notamment, alors moi, je voudrais aborder le secteur
Est-ce qu'on peut le faire maintenant de la mêlée
bah, non, mais le secteur de la mêlée.
Passons.
Il y a un fil conducteur.
C'est nouveau. On a un fil conducteur entre les poteaux.
C'est nouveau.
Exactement.
Alors, si les arbitres changent de job, c'est aussi souvent parce que la pression exercée sur eux est lourde. Joël, l'automne dernier, on se souvient, l'anglais Wayne Barnes avait été mis en cause par Rassi Erasmus, le directeur de rugby des Springboks. Il a très mal vécu la situation, au point d'envisager de quitter le métier. Des critiques que vous avez dénoncées, évidemment, vous êtes le patron, vous êtes un peu au-dessus de tous ces arbitres, donc vous prenez leur défense. Ce genre de comportement n'est pas tolérable, ça peut être très préjudiciable, là aussi, sur la vie de ces arbitres, et donc sur l'avenir de l'arbitrage, en quelque sorte.
Oui, nous sommes évidemment impactés par les réseaux sociaux, on n'y échappe pas. Nos arbitres doivent apprendre à se protéger, à peut-être moins s'exposer. On ne peut pas vouloir le bon côté des réseaux sociaux et puis après rejeter le mauvais côté, ça c'est absolument impossible. Mais on a une jeune génération, on a beau les mettre en garde, ils sont quand même, ils restent friands de cela, ça fait partie de leur quotidien. Donc, mais il est évident qu'ils sont affectés, je suis d'accord avec vous, Wayne Lant l'a été, il a clairement dit. On doit tous s'évertuer à dénoncer ce genre de comportement parce qu'il est indécile d'avoir des gens du rugby, des gens de la famille rugby, des gens qui préconisent, enfin qui prétendent avoir des valeurs du rugby. Et il faut dénoncer quand ça va trop loin. Et parfois, ça va beaucoup trop loin.
Ouais. Alors au sein de
et vous avez eu un échange. Vous avez eu un échange avec Rassi Erasmus là-dessus ou non? C'est resté lointain comme ça parce que c'est plutôt rare qu'un sélectionneur fasse ça dans les autres pays.
Rassi Erasmus s'était déjà rendu coupable d'agissements très, très discutables lorsqu'il y avait eu la tournée d'Alliance en Afrique du Sud. Ça avait été très loin. Il avait été sanctionné. Il s'est à nouveau rendu coupable. Donc moi, je suis intervenu évidemment publiquement. D'autres personnes sont également intervenues. Et là, donc après, il a eu affaire avec les responsables de World Rugby. Il y a eu une discussion sérieuse qui a été engagée.
Ouais. Sur la tournée des Lions, je crois qu'il avait ouvert un faux compte Twitter où il balançait sur l'arbitrage. Effectivement, c'est pas très rugby, cet esprit-là. Alors, au sein de World Rugby, vous essayez d'atténuer la pression en faisant des débriefings avec les arbitres qui ont été mis en cause. C'est ce que nous expliquait, on va l'écouter, il y a quelques semaines, Mathieu Reynal, le meilleur arbitre français qui était l'invité des poteaux.
C'est vrai que la pression liée à l'erreur pour un arbitre, elle est extrêmement forte. Quand on était à Dubaï en réunion, on avait les arbitres de World Rugby, Joël Judge avait demandé à Wayne Barnes, à Craig Joubert et à Bryce Lawrence de nous raconter comment ils avaient vécu l'erreur d'arbitrage quand ils avaient commis ces erreurs-là sur des matchs cruciaux. Mais c'était bouleversant. Mais j'aurais aimé qu'il y ait une caméra là pour que les gens entendent bien que la pression populaire a failli pousser certains mecs à se foutre en l'air pour une erreur d'arbitrage. Donc pour nous qui sommes arbitres, mais d'entendre ça alors que c'est des collègues, je veux dire Wayne c'est un ami, Craig pareil, Bryce fait partie de mon staff, mais ça me retourne le cœur.
Ouais, incroyable d'entendre ça, Denis. C'est
incroyable, hein. Ouais. Oui, on l'a discuté avec Mathieu Reynal, mais oui, mais qu'est-ce que vous faites, Joël, par rapport à aller dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a des...
Mais il était important pour nous de mettre en place, enfin, d'avoir une discussion sur la vulnérabilité, car c'était un peu tabou. On n'avait pas évoqué concrètement les problèmes qu'il y a eu en 1995 avec Craig Joubert, en 2011, sa finale. Denis, quand je t'ai croisé à Marseille sur le match France-Afrique du Sud, le midi, j'étais avec Craig Joubert. Et Craig Joubert craignait son apparition en France depuis cette finale. Il reste un homme blessé. Il reste un homme blessé parce qu'il sait qu'il n'a pas été bon ce jour-là. Il sait qu'il a été pris par un environnement qu'il a eu du mal à maîtriser. Et aujourd'hui, même encore, alors que c'est un... Quand je suis arrivé dans la tête de World Rugby, enfin, au niveau des arbitres, la première personne que j'ai voulu à mes côtés, c'était Craig Joubert, parce que j'avais une confiance énorme dans l'intégrité de ce gars. Et ça reste un homme blessé. Il sait qu'il a mal fait et il aurait aimé être bien meilleur. Il ne l'a pas été. Il sait qu'il y a eu un titre qui s'est joué sur quelques décisions. Et donc, il était ravi de rencontrer les supporters français, des gens que je connaissais sur Marseille, et ça lui a redonné confiance. C'était bien de voir ça. Et donc, cette séance dont parle Mathieu Reynal à Dubaï, je voulais qu'il y ait cette vulnérabilité, qu'on monte de la vulnérabilité pour qu'on arrive à tisser des liens forts entre nous, parce qu'on a besoin d'avoir d'avoir de l'entraide. C'est plus que de l'entraide. C'est Chancelin de Lille, des fois, qui en parle, mais il a raison. Il faut de l'amour entre nous. Il faut qu'on ait des arbitres touches qui supportent le mec du milieu. Ça va trop vite aujourd'hui. Donc, vous êtes obligé d'être 3-4. Vous avez parlé de Nika, lorsqu'il met un carton rouge à Ouass. Au départ, il ne peut pas le mettre parce qu'il ne perçoit pas le côté dangereux. Et puis, il a été challengé de manière merveilleuse. C'est exactement ce qu'on attend d'une équipe de trois arbitres, de quatre. Et je leur dis souvent, quand vous êtes trois, tous les trois ensemble, face à l'écran géant, et qu'il n'y a aucune interaction, et qu'on a le mec du milieu qui se plante, et on a les deux autres qui suivent et qui se plantent également, ça, c'est inacceptable. Et là, on a eu des gens qui ont interréagi, et j'espère que c'est ce que nous verrons à la Coupe du Monde. On a un capitaine de route, mais après, on peut avoir des faiblesses, et on ne peut pas se tromper à quatre. Il faut que les trois autres reprennent le dessus.
Et en fait, il n'a pas été déjugé, c'est un travail d'équipe, en fait.
Oui, parce qu'il n'avait pas pris sa décision encore. Il n'avait pas encore pris sa décision, donc il n'a pas été...
Non, mais ce qui est bien, justement, c'est un travail d'équipe qui a donné raison, finalement.
Vous auriez pris la même décision, Joël?
Absolument.
Un carton rouge,
carton rouge. Bien sûr que c'est un clair carton rouge. Pour moi, il n'y a eu aucune discussion dessus. Et on a aimé d'avoir un jeune arbitre qui est sûr de lui. Hein. Lucas, c'est quelqu'un qui est très confiant dans sa prise de décision. Il a eu un esprit assez grand pour sourire à ces gens, à ses copains à côté, qui, eux, étaient unanimes et qui lui ont dit non.
Il disait que c'était pas un haut degré de dangerosité, je crois. Hein. Il avait dit ça.
Et là, on est, vous l'avez bien compris, même si on cherche, on a un arbre décisionnel. Dans tout ce qu'on fait, souvent les gens pensent, et je l'ai entendu dans le commentaire, oh, c'est sévère. Pour nous, sévère, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on a un arbre décisionnel. On doit s'appuyer sur... on pose des questions, réponse A, réponse B. Ouais. Si on a réponse A, on repart sur d'autres questions. Si on a réponse B, sur d'autres questions. Et c'est ce qui nous aide à être cohérents. Alors parfois, on a des incohérences. On fait des erreurs, bien sûr, parce qu'on est mal placé, parce qu'on ne voit pas bien, parce qu'on s'est trompé 5 minutes auparavant. On a du mal à garder la lucidité. Et c'est la raison pour laquelle le travail d'équipe est capital.
Indispensable. Et donc,
je veux juste faire une parenthèse. Est-ce que vous réfléchissez à un carton orange ou pas? Quand je dis orange, c'est-à-dire que c'est en dessous du rouge, évidemment, de sortir.
C'est-à-dire expulser le joueur et permettre à un remplaçant de rentrer au bout d'un certain nombre de minutes.
Complètement. C'est un mauvais geste, il sort, mais au bout de 20 minutes, on a un remplaçant qui rentre, celui qui n'a pas été coupable.
Je crois que ça existe déjà. Enfin, ça a été mis en place dans l'hémisphère sud. Hein, Joël?
Voilà, c'est en place dans l'hémisphère sud. Alors, c'est pas tout à fait orange, ils ont pris une voie similaire. On a décidé, ou Rémi veut lutter contre le jeu déloyal. J'avais une émission sur France Télévisions aujourd'hui, c'était le papa d'un joueur du Stade français qui a 5 ans est décédé sur un terrain suite à un plaquage. Et je crois que ça avait bouleversé le monde du rugby. On doit arriver à sécuriser ce terrain, même s'il y a de l'engagement, un engagement terrible. Je trouve qu'on n'en arrive pas à responsabiliser assez, même le joueur de niveau, le professionnel, en disant que son corps est son outil de travail et que s'il n'en prend pas soin, il va se détruire, qu'il ait le ballon ou qu'il n'ait pas le ballon. Donc ça, il faut que ça rentre dans l'esprit. Mais on a encore associé, nous, la bravoure, la générosité, et on a des gens qui arrivent tête baissée, soit avec le ballon, soit qui n'ont pas le ballon, qui mettent la tête du mauvais côté parce qu'ils arrivent avec une telle vitesse. La vitesse est un facteur... De manque de contrôle. Donc, il faut arriver à faire rentrer dans les esprits cela, et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable au carton orange. Imaginez, on a un joueur qui est merveilleux, on le connaît tous, c'est Antoine Dupont. Mm-hmm. Je suis son adversaire, j'essaie de l'éliminer, je prends un carton rouge, oui, je suis expulsé, mais au bout de 20 minutes, quelqu'un va me remplacer. Où est l'équité sportive? Où est l'éthique? Où est, vous voyez ce que je veux dire?
Ouais. Donc, oui, mais quand un joueur fantastique comme Antoine Dupont, justement, commet une faute qui lui a valu un carton rouge, c'était à l'automne dernier, alors qu'il n'y avait pas d'intentionnalité, ça prive aussi le spectacle d'un de ces acteurs les plus importants. Donc c'est pour ça aussi que parfois les spectateurs et les journalistes et les consultants ont du mal à accepter tous ces cartons rouges, parce qu'il y en a quand même, il y a une sacrée recrudescence, Joël, depuis quelques temps.
Mais vous avez employé un mot qui est très intéressant, l'intentionnalité. Si on est tous en train de juger l'intentionnalité, quand Vincent jouait, et je l'ai arbitré un paquet de fois, quand il jouait, il y avait encore, et même s'il y en avait beaucoup moins, mais il y avait encore des coups de poing, il y avait encore des mauvais coups. Au plus haut niveau, on n'a plus ça. On n'a plus, vous voyez, quand les gens s'accrochent, vous ne voyez plus les coups de poing parce qu'il y a la vidéo. Donc, le mauvais geste que nous avons, enfin, le jeu déloyal que nous avons, c'est sur des déblayages, c'est sur des plaquages hauts, c'est sur des plaquages où les joueurs doivent changer leur comportement. On doit tous admettre ça. On doit tous le comprendre. Et les échanges que nous avons avec les entraîneurs, je vous assure, dans tout ce qu'on fait, on n'est pas tout seul. Nous, hein. On a le Cora Smith qui représente l'association des joueurs. Et il a une part prépondérante. On a les entraîneurs qui ont des voix prépondérantes. Et Conrad, parfois, est plus sévère que nous, hein, plus engagé que nous. Donc, on doit travailler ensemble pour se mettre d'accord sur ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Mais l'intentionnalité, les gens arrivent avec une telle...
C'est difficile à juger, quoi, l'intentionnalité.
Oui, Antoine, à vous demander Antoine serait avec nous. Il ne contesterait absolument pas son carton rouge. Il ne voulait absolument pas faire mal. C'est évident. Imaginons que... Mais malheureusement, son timing n'était pas bon. Imaginons que celui qui était en l'air devienne paraplégique.
Colby.
Et il faut
jamais...
s'enfonce
la tête dans le sol. Ouais.
Exactement.
Ouais. Il ne faut jamais le perdre de vue, ça. Donc, ça doit rester un sport engagé, un sport de contact, de combat. Et on est tous d'accord là-dessus. Mais par contre, on doit faire attention à la tête et au cou.
Mm-hmm. Christophe, ce que je voulais demander à Joël, juste peut-être parce qu'il faudra qu'on parle du jeu au sol. On va en parler, on a beaucoup de questions sur le jeu au sol avec l'équipe de France en plus. Juste avant là-dessus, vous voulez éradiquer ça, donc protéger les joueurs. Des cartons rouges, il y en a, donc il n'y a pas de souci. Moi, il y a juste quelque chose qui parfois me gêne un peu. C'est peut-être pas de votre sort, après c'est les commissions indépendantes qui sanctionnent les joueurs. C'est qu'on a des degrés d'entrée, donc de dangerosité pour les sanctionner, 2, 4, 6, 8 semaines selon les cas. Et à chaque fois, quand il y a excuse, bon comportement, il y a la moitié de la sanction qui est enlevée. Et moi, je trouve à chaque fois que, puisqu'on veut empêcher les joueurs de faire ces gestes-là, et qu'ils comprennent et donc qu'ils soient suspendus, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est peut-être pas de ton ressort, mais d'enlever la moitié de la sanction pour simple bon comportement, reconnaissance de faute et tout, est-ce que ce ne serait pas un peu...
Il faudrait pas
c'est beaucoup, du coup, de passer de 6 à 3 en disant « Oh, pardon, désolé, machin. » Est-ce que ce ne serait pas un peu moins, en enlever un peu moins pour que le joueur comprenne vraiment que ça marque un peu plus, c'est ma question.
Ce n'est effectivement pas de mon ressort. Donc,
voilà.
Mais ce n'est pas du tout... Il n'y a pas une réponse où ça ne sera pas touché du tout. Hein. Ça ne me regarde pas... On n'est pas concerné, on n'est pas impliqué là-dessus. Je comprends très bien la remarque. Si on fait appel à nouveau au cas de Antoine Dupont, on trouvait logique par rapport au joueur qu'il est, par rapport, c'est pas quelqu'un qui il n'a jamais les cartons. Il est toujours dans les règles,
etc. C'est l'histoire du casier, oui.
Voilà, et là on trouvait justifié que la peine soit réduite. Mais après, moi je suis assez d'accord. Je trouve des fois les points d'entrée sont trop hauts aussi. Il y a ce fait que vous dénoncez, mais il y a des points d'entrée qui sont très hauts. Pour les gestes non intentionnels, en tout cas non volontaires, le gars peut être privé du Coupe du Monde. Donc les conséquences sont quand même assez importantes.
Ouais, ça a pris combien déjà, Wilfried, là, pour son geste de la semaine dernière ? Trois ?
Quatre.
Quatre semaines.
Quatre.
Ouais, ça vous semble, par exemple, Denis, ça te semble une sanction juste
Oui, qui est ramené à 3, je crois, parce qu'il a
une semaine.
Je comprends ce que dit Joël sur la dangerosité de tous ces gestes-là et qu'il faut... qu'il faut prendre des sanctions, mais 4 semaines, ça me paraît juste, oui. Ouais. Je veux pas condamner, si on a mis 8 semaines à Hawa, pour moi, c'était une double sanction.
Non, mais Gilchrist, l'Écossais, a pris 6 semaines ramenées à 3, pour le coup d'épaule qu'il a mis dans le visage à Jelonge, qui est arrivé avec une énorme vitesse aussi. Par exemple, il a pris 3 semaines, là. Et peut-être qu'il peut être amené à 2, selon un entraînement qu'il fait, filmé, ensuite, pour que les joueurs s'entraînent à...
Ah, s'il fait un stage, il peut récupérer des points, c'est comme pour le permis de conduire.
Ça, oui. Non, mais ça, c'est toujours bien, après, de filmer les joueurs et de leur apprendre à bien plaquer, c'est sûr.
Ah, mais ça, c'est évident. Manu, tu voulais poser une question ?
Non, c'est la même question que Wilfried, c'est sur ce critère de sanction. On a l'impression que la commission discipline, à chaque fois, on a l'impression que nos règlements sont trop compliqués et certainement adaptés. Joël l'a dit aussi, peut-être qu'il y a des critères qui sont trop hauts, enfin des barèmes de sanctions qui sont trop hauts. Je ne comprends pas comment Gilchrist peut repasser à 3 et que Mohamed Awas se retrouve lui aussi à 3. La dangerosité, ce n'est pas du tout la même. Et effectivement, le critère d'entrée, c'est tout ça, c'est trop compliqué. J'ai l'impression, Joël, que quelquefois, les arbitres, vous êtes trop seuls à appliquer une décision et que derrière, finalement, le joueur, il sait que en commission de discipline, avec le jeu des dispositifs, il sait qu'il risquera beaucoup moins qu'avant, quoi.
Non, mais attention, il y a deux points différents, il y a deux points bien distincts. Il y a la sanction que nous donnons sur le terrain et puis la sanction qui est après appliquée. Je le répète, le corps arbitral n'est absolument pas impliqué dans la deuxième partie.
C'est pour ça que je te dis que quelquefois vous êtes seul, trop seul.
Non, parce que aujourd'hui, si vous rappelez au Japon, on avait ce qui s'appelle Mai Takai Framework, qui était chez au dernier moment, un arbre décisionnel qui a été chez au dernier moment, parce que justement en France, il y a eu énormément d'accidents, et donc aujourd'hui il a voulu réagir, mais un peu dans l'urgence. Et c'était mal maîtrisé, c'était mal compris par les joueurs, entraîneurs, par les arbitres, et évidemment il y a eu de mauvaises applications, et le résultat final n'était vraiment pas bon. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le head contact process. Je vous assure que cet arbre décisionnel, on le maîtrise assez. Il peut y avoir, évidemment, il y a de la subjectivité. Quand on parle, et vous l'avez dénoncé justement tout à l'heure, un haut degré de danger plutôt bas, c'est très subjectif. Et là, on peut jouer sur le carton. Évidemment, si on n'a pas envie de donner un carton, on va dire que le degré de danger n'était pas très haut, et peut-être que le joueur est blessé, va quitter le terrain, donc il y a une vraie déconnexion. Et ça, il y a une part de subjectivité, même si on cherche à travers ce procédé, on cherche un maximum d'objectivité. Je vous assure qu'on est assez à l'aise. Et vous avez vu, deux cartons rouges, mais il n'y a pas eu de contestation sur ces deux cartons rouges que nous avons eu entre la France et l'Écosse. Ils étaient tous compris par tout le monde. Après, on peut discuter sur la sanction, je suis entièrement d'accord, je peux comprendre le débat, mais sur le fait de mettre un carton rouge, non, oui. On ne peut plus voir ce genre de geste au plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est un exemple, c'est la maîtrise des comportements, c'est la haute intensité, mais dans la maîtrise des comportements. Donc,
Alors, oui, on va aborder le problème de l'arbitrage vidéo, avec notamment Wayne Barnes, qui a été au cœur du cyclone lors du récent Irlande-France, hein, pour avoir accordé un essai aux Irlandais alors que James Lowe, l'auteur de l'essai, avait mis le pied en touche. Le problème, c'est que Monsieur Barnes n'a pas eu accès à cette vidéo, enfin pas à toutes les angles de vue, avant de prendre sa décision. Et que, du coup, il a pris une décision injuste qui lui a valu une avalanche de critiques. J'imagine que là aussi, Joël, vous avez été choqué. On a l'impression que Barnes et l'arbitrage général ont été un peu floués par la réalisation de ce match. Comment faire pour éviter que ce genre de choses ne se produisent à nouveau?
Alors, il faut être objectif, il faut être juste avec les auditeurs. Ce que nous avons dénoncé, ce que la France a dénoncé, ou les supporters français ont dénoncé lors de ce match, les supporters étrangers font la même chose avec les matchs en France. Ils se sentent frustrés. Le dernier match de Coupe d'Europe entre Toulouse et Munster, et il y a eu un vrai contact épaule contre tête qui n'a pas été montré.
Mm-hmm. À Marseille aussi, non? Sur l'essai de Falatea, les box n'avaient pas la... Non, est-ce que ce n'était pas le cas à Marseille?
En tout cas, ça arrive régulièrement. Et c'est un vrai souci.
Il y a des coquins. Parce que
les images n'appartiennent pas à World Rugby, elles ne sont pas produites par World Rugby. C'est un vrai souci. Pour la Coupe du Monde, ça va être largement atténué, puisqu'on va travailler avec un autre système qui s'appelle Hawkeye, et où là, ce système-là va prendre du pouvoir au réalisateur. Donc, on sera plus à même de montrer toutes les images avec des écrans qui seront divisés en 3, en 4, en 5, et qui nous permettront, ces images nous permettront de voir un toucher à terre en même temps que le placement des pieds en touche ou sur le terrain. Et ça va être une aide à la décision merveilleuse. Ah. Par contre, évidemment, la frustration est très grande quand on prend une décision et qu'on a un ralenti supplémentaire qui apparaît. On se sent floué, effectivement, mais c'est arrivé à maintes reprises. Et on espère que ça n'arrivera pas pendant
Oui, parce qu'avec l'arbitrage vidéo, justement, on pensait être à l'abri de ce genre de choses. Wilfried, je crois que tu as une question. Je sais que tu veux venir sur le jeu au sol et la façon d'arbitrer dans les rucks, hein, parce qu'on sait que l'équipe de France a été un peu surprise de la façon d'arbitrer lors de France-Italie, pénalisée à 18 reprises, je crois, cette équipe de France. Alors, on va pas dire qu'elle ne le méritait pas, mais par le passé, non. Ça a été différent quand même, Wilfried.
Hein, oui, donc, pour être honnête, on avait revu le match. Et on avait les fautes, elles y étaient. Il y en avait, Joël le sait parce qu'il a revu ce match certainement. Il y en avait celle de Taofi Fino à la fin peut-être, mais dans l'ensemble il y avait une ou deux fautes qui portaient, on pouvait en parler, mais sur le reste les fautes, elles y étaient. Alors attention, c'est pas, et Joël y tient, c'est pas des nouvelles règles, les règles n'ont pas changé, ce sont des consignes, évidemment, on le répète. Par contre, pourquoi ces consignes? Qu'est-ce qui fait qu'on met ces consignes tout d'un coup avant un tournoi à 6 mois d'une Coupe du Monde? On imagine c'est pour favoriser l'attaque, mais Joël, tu vas nous répondre. Et on a une petite interrogation, c'est que c'était un point fort de l'équipe de France et qu'on sent bien que les Français sont un petit peu embêtés sur ce jeu au sol à 6 mois de la Coupe du Monde. Et vous savez qu'avec les nombreux, alors on va pas dire les réseaux sociaux, mais les gens qui discutent de tout ça, qui disent comme par hasard, on a un truc qui embête les Français à 6 mois de la Coupe du Monde, c'est Celtes et Maja. Joël, explique-nous tout sur ces consignes sur ce jeu au sol dont on a beaucoup parlé depuis le début du tournoi.
Oui, non, d'abord pour rapport aux sélections de l'équipe de France, bon, pour moi j'étais convaincu que c'était un épiphénomène. L'équipe de France n'était pas dans un bon jour, il y avait plusieurs secteurs de jeu qui n'étaient pas bien maîtrisés, dont celui de la discipline, mais c'était un secteur parmi tant d'autres qui ne fonctionnait pas. Sur le jeu au sol, oui, on a renforcé les consignes, elles n'ont pas réellement changé, mais elles ont été renforcées pour une raison très simple. On se rend compte, c'est entraîneur, joueur, arbitre, à travers les discussions, les réunions que nous avons, on s'est rendu compte que, je vous apprendrai absolument rien, on a trois attaquants pour un défenseur. Trois attaquants pour un défenseur, ça doit nous interpeller. C'est-à-dire que comment on fait pour être en surnombre? Comment on fait pour déstabiliser une défense? Comment on fait pour déséquilibrer, arriver à trouver un intervalle ou arriver à contourner, si on ne fait pas de jeu en pénétration, on fait un jeu en contournement, comment on y arrive? Et ça devenait un problème. Donc les équipes ont fait quoi? Les équipes ont décidé de jouer énormément au pied. Donc, il y avait énormément de jeux au pied, de jeux d'occupation, de pression.
La dépossession,
mais qui était utilisée par beaucoup d'équipes. Les premiers qui avaient utilisé la dépossession, c'était les Blacks. On a toujours cru qu'ils jouaient énormément. Ils jouaient tous les ballons de contre-attaque, tous les turnovers, ils jouaient à fond, ils continuaient à les jouer à fond. Mais après, il y a énormément de jeux au pied. Aujourd'hui, l'équipe de France est de loin celle qui tape le plus au pied. Mais. Donc il y a eu ce débat et donc pour éviter d'avoir ces trois attaquants contre un défenseur, vous imaginez ce premier rideau défensif, la densité de ce premier rideau défensif. Donc on a instauré d'autres règles qui sont venues du jeu à 13 également, ce 50-22, arriver à taper dans son camp pour trouver des touches à la carte adverse et avoir le lancer pour faire reculer la défense, pour avoir au moins 3-4 joueurs qui couvrent le rideau profond. Donc ça c'est venu et puis c'était pas suffisant. Donc on trouvait, les entraîneurs ou les joueurs trouvaient qu'on était assez faible avec ce plaqueur assistant. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup d'équipes, dont la France, plaque à deux. On plaque un plaque aux jambes, l'autre plaque sur le haut du corps. Et l'objectif quand vous devez plaquer le haut du corps, c'est de prendre le joueur le plus tôt possible, quand il est en train de tomber. Et quand il est en train de tomber, ça veut dire que le porteur du ballon, si vous l'entourez avec vos bras, il n'a pas la possibilité de passer le ballon, et il n'a pas la possibilité de placer le ballon là où il veut. Or, la règle lui autorise de placer le ballon là où il veut. Et on devait être plus vigilant, on était un peu laxiste. Alors, ce n'est pas être laxiste, on avait des fois du mal à l'identifier, ce joueur-là. On a fait un gros travail dessus, et on est devenu plus performant sur le plaqueur. Aujourd'hui, vous avez très peu de plaqueurs qui viennent perturber les sorties de balle. On veut des ballons rapides pour tout le monde. Afin de jouer dans l'avancée, afin d'avoir des espaces, d'avoir un maximum de vitesse pour pouvoir soit pénétrer, soit contourner. Et donc, ce joueur-là a été plus ciblé, il a été mieux arbitré, et on lui a demandé à ce joueur-là d'être parfait. Lorsqu'un joueur vient gratter le ballon, il faut qu'il soit parfait, il faut qu'il vienne attaquer le ballon, il faut pas qu'il vienne... On a eu des tendances, je ne sais pas si vous avez fait attention, des tendances incroyables, on avait des joueurs qui venaient attaquer le sol, qui venait mettre les mains au-delà, bien au-delà du ballon. Et puis après, grâce au déblayage adverse, venait et récupérer le ballon pour faire un turnover. Donc, on lui a demandé à ce joueur de venir attaquer le ballon, d'être beaucoup plus précis. On lui a demandé, parfois il nous faut le ralenti, même à vous, je suis sûr qu'il vous faut le ralenti pour savoir si le joueur a lâché ou pas le ballon, c'est clairement lâché ou pas. Donc, on a demandé à faire des efforts au niveau des coudes, de les monter un peu plus haut pour que l'arbitre n'a pas un magnétoscope. Il ne fait pas marche avant, marche arrière. Il faut qu'il prenne la décision à un laps de temps très, très rapide. Donc, si vous voulez vous protéger, si vous voulez être sûr qu'on ne se trompe pas, montrez un peu plus de déconnexion, un peu plus d'espace entre celui qui vient gratter le ballon et celui qui vient contester. On l'a appliqué. C'était bien compris parce que c'était une demande de leur part. C'était une demande des équipes. Les équipes qui veulent jouer, elles veulent qu'on pénalise les ralentisseurs de jeu. Les ralentisseurs de jeu sont les plaqueurs.
Et toutes les équipes étaient unanimes, Joël, justement, là-dessus.
Bien sûr,
c'était un point fort des Français.
Mais les Français veulent aussi jouer. Les équipes continuent à gratter. Elles continuent à gratter, sauf qu'elles viennent cibler le moment où il faut les gratter.
Joël, on se rend compte quand même de la complexité des règles dans le rugby. On le voit, les règles.
Qui font les règles, Denis?
Non, mais les règles sont différentes dans le top 14, dans la Coupe d'Europe ou dans l'hémisphère sud, c'est différent. Enfin, la façon d'arbitrer est différente. Comment on peut pas avoir le rugby? Comment tu n'arrives pas dans l'avenir à uniformiser justement les règles dans le monde entier?
Si, je crois qu'on fait beaucoup d'efforts pour uniformiser. Aujourd'hui, je ne vois pas de différence entre Ben O'Keefe, celui qui va nous arbitrer contre les Anglais, je prends des risques là,
oui, mais...
qui va nous arbitrer contre les Anglais, et par exemple Mathieu Reynal. Je ne vois pas de différence entre eux. On a un Français, un Néerlandais, je n'en vois pas.
Mais la façon dont tu regardes les matchs parfois dans l'UFC Sud, c'est pas du tout la même. Je suis désolé.
Oui, mais après, quand ils arbitrent...
C'est le
ressenti, Denis, qu'on a. En disant, tiens, il faut plus de secondes pour
Balon
garder au sol en top 14 ou moins en Coupe d'Europe. Ça, c'est plus vite. C'est un ressenti qu'on a, mais les règles sont les mêmes, c'est vrai.
Mais parfois, on a un ressenti qui est effectivement différent de quand tu vois des matchs arbitrés pendant le tournoi.
Très bien. Eh bien, ça a été passionnant, cet échange avec Joël Judge. On a encore 50 millions de questions à lui poser. On verra en tout cas.
Je voulais lui parler de la mêlée, mais
tu pas parler de la mêlée. C'est vrai que tu es un spécialiste de la mêlée.
Non, pareil, c'est trop long. C'est trop long, Joël. Il faut que les mêlées soient plus courtes. Des fois, c'est 3-4 minutes. J'en ai marre des mêlées. C'est trop long.
Mais que faire,
Denis, Joël. Denis, alors d'abord, c'est intéressant d'avoir ce genre de débat. D'abord, nous travaillons avec un spécialiste de la mêlée. On a un consultant qui est avec nous, Mike Ron, qui était l'ancien docteur de la mêlée, on va dire, des Blacks. Et qui est indépendant, qui n'a plus sous contrat avec la fédération néo-zélandaise, qui travaille avec nous, les arbitres, et qui travaille avec les coachs. Ce soir, là, dans une heure et demie, j'ai une réunion avec tous les coachs des Six Nations, des mêlées. Et tous les arbitres qui étaient impliqués. Ça, on fait ça, ce débriefing, on le fait régulièrement, après chaque match. Et ensuite, sur les mêlées, Denis, on voudrait qu'elles aillent plus vite. Mais ce sont les joueurs qui prennent énormément de temps. On veut essayer de passer sous les 30 secondes. On va essayer de passer sous les 30 secondes. Pour l'instant, on n'a pas les moyens de mettre des chronos.
Mais je ne dis pas que c'est votre faute. Hein. Je dis souvent que c'est les joueurs qui truquent, qui s'arrangent, qui s'accommodent. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est comment faire pour justement limiter le temps. Parce que parfois, c'est...
Et on a le problème de sécurité.
Et la sécurité, ça, c'est évident.
Voilà.
Le seul problème, c'est l'interprétation et le changement d'interprétation, le changement de votre façon d'arbitrer. Là, ça intervient à quelques mois de la Coupe du Monde. Ça risque de perturber quand même certaines équipes qui vont peut-être plus jouer de la même façon à la bord de cette Coupe du Monde, Joël.
Non, mais il n'y a pas eu de changements fondamentaux, je vous assure. Ces consignes-là du plaqueur et de l'assistant plaqueur, c'est des consignes...
Alors on a l'impression, Joël, quand même que les Français vont moins dans les rucks, là, hein, sur ces trois premiers matchs. Hein.
Oui, mais là, c'est...
Ça, c'est peut-être qu'une impression.
C'est leur problème. Certaines autres équipes continuent de venir gratter. Intéressez-vous aux statistiques de notre équipe, vous allez voir. Donc, non, après, ce sont des choix tactiques qui sont faits par les équipes. Voilà, nous, on pense que... Enfin, on pense l'ensemble des composantes de ces groupes de travail font que... Enfin, en tout cas, on pense qu'on est dans la bonne direction puisqu'on applique ce que nous avons décidé tous ensemble.
Christophe, juste une dernière question. Tu en as d'autres, je ne sais pas, mais question. Et Joël, alors, c'est toujours des règles pour améliorer le jeu, le spectacle, choses comme ça. Mais est-ce que c'est judicieux de changer souvent, changer, c'est un grand mot, tu vas me dire, mais de changer quelques règles à chaque fois pour un grand public qui a déjà du mal à connaître les règles du rugby qui sont très complexes?
Mais d'abord, un an avant les Coupes du Monde, il n'y a jamais de changement. Donc, il n'y a aucun changement. Réel. Et ensuite, nous aimerions, nous aussi, que les règles soient beaucoup plus simples, beaucoup plus claires. Il y a eu des groupes de réflexion qui ont vraiment pensé à simplifier. Et on se rend compte, un peu comme le droit français, que lorsque vous touchez à une règle, vous allez toucher une autre qui n'est pas très loin. On modifie toute la teneur du jeu, tout le contenu, et c'est d'une complexité, je vous assure, il y a des gens de différentes nationalités qui sont penchés. Il faudrait y arriver, il faut qu'on y arrive, hein, parce que c'est un enjeu majeur si on veut garder le grand public. On le sait tous, on aimerait vraiment que ce soit plus facile pour nous également, mais c'est un vrai challenge, c'est un vrai challenge.
Merci beaucoup Joël d'être venu passer cette grosse demi-heure avec nous, c'était très intéressant et on va essayer de faire bosser Denis, hein, promis pour la Coupe du Monde, afin qu'il évite de balancer sur les
arbitres. Je ne parlais pas pour Denis.
oui, tu vois.
Ah bon,
c'est pour toi que je parle, oui, c'est pour toi Christophe.
En plus Christophe, tu as raison, on peut faire un mea culpa, que ce soit nous, que ce soit les gens, les commentateurs, les gens sur les réseaux sociaux, beaucoup.
Toujours facile de taper sur les arbitres.
Non, mais surtout on se dit oui ici, oui là, et on se rend compte qu'on ne connaît pas tout par cœur.
Oui, mais de la même façon, on a rendu hommage au dernier arbitrage au Stade de France, qui était formidable pour un arbitre qui a 28 ans.
Exactement.
Donc c'est...
Merci Joël Judge. Bon merci travail et à très bientôt. Merci d'avoir été notre invité. Merci les garçons. On vous a pas tous beaucoup entendu. Manu, il a pris des notes là. Manu, il va faire un,
un
compte rendu dans Midi Olympique.
Manu, le problème, c'est qu'il connaît pas les règles.
Manu, c'est le problème, c'est qu'il connaît pas le rugby, tout simplement. Oui.
Voilà, enfin, enfin, tu l'avoues.
Non, non, c'est passionnant. Donc, on se doit d'écouter parce que c'est plein de précisions, c'est plein de vérités. Et comme l'a dit Wilfried, on est tous persuadés d'avoir raison. Et il y a des moments, ça nous ramène un peu sur terre. Ça nous fait beaucoup de bien.
Très bien, messieurs. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine après le crunch. Bonne semaine. Ciao, ciao.